ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien.
Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission du Côté de chez Jules. C'est une émission qui vous est proposée par les élèves du lycée Michelet. C'est eux qui conçoivent cette émission, qui en proposent les thématiques et qui les réalisent. Aujourd'hui, 8 élèves de Michelet, des classes de seconde et première, sont rassemblés dans les studios de CFM pour débattre sur le prix du lycée Michelet. Chaque année, depuis maintenant 17 ou 18 ans, le lycée Michelet... Les enseignants du lycée Michelet sélectionnent 5 livres et ces livres ensuite sont proposés aux élèves qui en débattent pendant toute l'année dans différentes commissions. Et ensuite, un grand jury se réunit, il s'est réuni cette année le 7 mai pour délibérer et décider quel sera parmi ces 5 livres celui qui aura le prix du lycée Michelet. Cette année, nous allons donc vous proposer les 5 livres qui ont été en course. On va pas vous dire tout de suite qui a eu le prix du lycée Michelet. Le jury, on sait déjà qui l'a eu. Nous le savons. Je dois vous dire aussi que cette année, pour la première fois, le lycée Bourdelle a été associé à cette initiative et les votes des élèves de Bourdelle ont été pris en considération. Alors. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec le premier livre qui s'appelle Le rire du grand blessé. C'est un livre de Cécile Coulon qui est publié chez Viviane Ami et c'est Angèle qui va nous le présenter.
Alors c'est un livre qui présente une société futuriste, on peut dire, qui n'existe pas dans notre monde. Le principal protagoniste est un agent de sécurité dans ce monde qui, à travers lui, on apprend à connaître cette société, à connaître toutes ses rouages, toutes ses faiblesses et son histoire. Et au fur et à mesure qu'on avance dans ce livre, on voit la profondeur le manque de sentiments plutôt dont il recèle et puis les problèmes de cette société, la façon dont on peut les améliorer et on se forge une opinion peu à peu.
D'accord. Dessus. Est-ce que vous diriez que c'est un roman d'anticipation et qu'il y a un régime de nature totalitaire, un peu ?
Oui, c'est un régime d'une nature totalitaire, oui. Et oui, je dirais un roman d'anticipation.
Très bien. D'autres réactions, alors ? Qu'est-ce qui a aimé ce livre, déjà ?
Moi, je l'ai beaucoup aimé. Sauf qu'il y a un truc qui m'a gêné dans sa présentation, c'est qu'il y a, le manque de sentiments, justement, qu'elle a dépeint dans ce livre. C'est dû par le fait que les livres... Que les livres, en fait, ne sont pas comme ceux qu'on a maintenant, c'est-à-dire ils ne sont pas nuancés. Il y a juste une émotion par livre. C'est-à-dire que si on lit un livre tristesse, on est obligé, entre guillemets, de ressentir cette tristesse, et c'est pour but, justement, de contrôler le peuple.
C'est ça. Donc ça, c'est volontaire. Hein, c'est le régime en place qui fait en sorte qu'il n'y ait qu'une seule idée par livre.
Oui, c'est ça. C'est pour le retenir.
D'autres réactions ?
Dans ce livre, les livres sont utilisés de manière pour un peu conditionner et contrôler la foule. Ils créent par exemple des arènes où un orateur va lire un livre d'un certain type et où la foule va scander ce livre et va pleurer ou ressentir l'émotion qu'elle doit. Et c'est à ce moment-là que les agents de sécurité sont là pour essayer de contenir cette foule qui est transcendée par la lecture, on va dire. Et c'est là qu'arrive le héros du livre. Qui, lui, n'a aucun sentiment, ne ressent aucun sentiment des livres, ne trouve aucun intérêt à la lecture, et le fait qu'il soit arrivé à ce poste est dû au simple fait qu'il ne sait pas lire. Et c'est pour ça qu'il est considéré un peu, entre guillemets, gros guillemets, comme une élite de cette société, car il arrive à résister aux sentiments et
voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre?
Je l'ai trouvé très bien, ce livre. Le monde dépeint est assez intéressant. Le héros des phrases vers la fin assez charismatiques qui tournent assez bien.
Est-ce que c'est un livre qui vous a fait peur ? Est-ce que c'est une société dans laquelle vous voudriez vivre ou au contraire pas du tout ?
Moi personnellement je n'y vivrais pas parce que les livres sont faits pour être dans ce monde pour ressentir une seule émotion. Alors que les livres dans notre monde à nous sont plutôt faits pour justement savoir avoir une explosion d'émotions. Certains livres sont très bien faits pour ça et d'autres sont un peu plus médiocres.
Vous êtes d'accord ? Qu'est-ce qui n'a pas aimé ce livre ? Oui ?
Moi, je l'ai beaucoup aimé. Ce serait plutôt pour réagir par rapport à ce qui a été dit. Si Angèle, t'as pas trouvé qu'il y avait d'émotion dedans, moi, je pense que c'est une des caractéristiques du conte philosophique. Et je pense que ça caractérise ce livre. Et on retrouve aussi, il y a beaucoup de superlatifs, que c'est des fois très exagéré. Et aussi que le style est très impersonnel, froid, rude. Et ça donne une impression de déshumanisation. Mais moi, je trouve qu'il y a des émotions parce que d'un côté, ça fait quand même assez peur. Que les livres qui nous sont si précieux, on ne se rend pas vraiment compte de la chance qu'on a de pouvoir lire tout ce qu'on veut avec une liberté dont certaines personnes ne disposent pas. Donc le livre devient une arme pour un gouvernement assez totalitariste. Ça devient une arme de pression mentale. Et moi, je trouve que c'est une parabole avec... Finalement, comme c'est un roman d'anticipation, c'est la dérive de notre société. Et ça fait donc la parabole de ce qui pourrait se passer. Donc ça fait aussi le lien avec l'histoire, les totalitarismes. Et je trouve qu'il est vraiment très bien parce qu'il fait réfléchir.
Angèle, qu'est-ce qui vous a particulièrement séduit dans ce livre ?
Moi, ce qui m'a séduit, c'est je suis d'accord avec ce ton impersonnel et froid dont vient de parler Noémie. Mais... par contre, j'ai quand même trouvé que je ne ressentais pas autant de sentiments que quand je lis un autre livre. Je sais pas, ça m'a attirée, cette façon de recevoir les sentiments en arrière-plan et d'être attirée plutôt par l'histoire, en fait. Donc, je sais pas, le héros aussi, particulièrement impersonnel, il n'exprime pas ses sentiments, même si vers la fin, il commence à en ressentir, mais du coup, je sais pas, c'est comme si ça nous mettait à l'écart, et d'une certaine manière, ça nous attire.
Ok. C'était Le Rire du Grand Blessé, un livre de Cécile Coulon, qui est publié chez Viviane Ami. Le second livre qui était en comp...
Oui ? J'ai quelque chose à rajouter sur ce livre. Je vois qu'apparemment, ça a plu à beaucoup de monde, mais moi, au contraire, je ne l'ai pas du tout aimé, parce que je trouve, ça m'a fait penser à un autre livre que j'avais déjà lu. Ça m'a fait penser à 1984 de George Orwell. Et donc, avec ce livre, j'ai eu du mal à vraiment le lire sans penser à 1984 de George Orwell. Parce que je trouve que c'est vraiment la même histoire, un récit d'anticipation où on voit un personnage qui découvre vraiment une société qui est une dictature et qui peu à peu va se délivrer de cette société. Et en fait, j'ai pas pu me décrocher de cet autre livre. Et donc, je pense que ça m'a bloqué un peu.
Et vous vous rappelez que 1984, c'est un livre qui avait été écrit en 1948.
Hein? Oui.
Donc, ce qui était assez étonnant, oui. Oui, vous voulez aussi intervenir ?
Oui, moi, c'était juste pour parler du livre, pas forcément de son commentaire, désolé. En fait, moi, il y a un truc que j'ai trouvé fascinant dans ce livre, c'est que c'est les personnages avant tout. C'est-à-dire que... Moi, personnellement, après, je sais pas pour les autres lecteurs, c'est que j'ai pu m'identifier à ces personnes et d'un côté, ne pas les comprendre. C'est-à-dire que les lecteurs qui sont totalement en transe lorsqu'ils entendent ces livres, j'étais là, je ne comprenais pas, en fait. D'un côté, j'essayais de me mettre dans leur place et je ne comprenais pas. Et quand on ne peut pas comprendre les personnages, je pense que ça veut dire qu'il y a, pour la plupart des livres, en tout cas, qu'ils sont bien faits. Parce que ils ont une complexité qu'on ne peut pas comprendre.
En fait, moi, je voulais dire que je suis vraiment d'accord avec Alexandre parce que j'ai vraiment trouvé que ce livre, il était un peu caricatural, en fait. Moi aussi, j'ai lu 1984 et c'est vrai que quand on fait la comparaison, je trouve que ce livre, il est un peu artificiel parce qu'on a l'impression que l'auteur s'est dit, en ce moment, c'est à la mode les sociétés d'anticipation, donc on va faire un livre dessus un peu. Et... vraiment, je pense, je trouve que c'est impossible qu'un jour on arrive à ce genre de société, que vraiment, ça me paraît assez... j'ai l'impression que c'est une critique qui est assez... On pourrait mieux critiquer notre société qu'au travers des livres ou comme ça, et aussi que les personnages, je les trouve un peu caricaturaux avec le fait que, par exemple, il n'a aucun sentiment, et du coup, on a l'impression que c'est... Ce personnage, il n'est pas profond.
Bien, c'était donc Le Rire du Grand Blessé. On va en rester là, celui-là. On reviendra peut-être en dessus s'il a eu le prix, par exemple. On en reparlera parce qu'il faut qu'on puisse parler des 5 bouquins tout de même. C'était Le Rire du Grand Blessé de Cécile Coulon chez Viviane Ami. Le second livre qui était en compétition s'appelle Dans la barque de Dieu. C'est de Kaori Ekouni chez Philippe Piquier. Et c'est Louise qui va nous le présenter.
Donc ce livre, il faut le préciser, est japonais au départ, donc il a été traduit en français. Ça parle de l'histoire d'une mère et de sa fille, qui sont toutes les deux. La mère a lancé un défi avec le père de sa fille. Et ce défi, c'est où que j'aille, enfin c'est plutôt une promesse, et c'est le père qui a dit « Où que tu ailles, je te retrouverai ». Et donc c'est un peu un jeu de chat et la souris entre la mère et cet homme, qui donc entraîne sa fille un peu dans leur petit jeu. Et donc elle change en permanence d'endroit où vivre. Et la mère a une technique, entre guillemets, pour oublier à chaque fois l'endroit où elle était. Elle met dans une boîte et elle range. Et elle oublie. Contrairement à sa fille qui, elle, veut avoir des racines, avoir des amis et ne pas devoir changer tous les 4 mois de maison. Et donc, l'histoire se base au chaque chapitre est soit pour la mère, soit pour la fille. On voit l'histoire des deux points de vue. Et la fille décide à un moment de s'émanciper de sa mère et d'aller dans un internat pour pouvoir avoir un endroit fixe. Voilà, c'est le.
Alors, tout ça se passe au Japon.
Tout se passe au Japon, dans différents endroits du Japon.
Très bien. Donc il y a des rapports. On voit qu'il y a des rapports mère-fille et puis aussi donc père-fille aussi.
Non, oui. Parce que la fille ne connaît pas du tout son père.
Oui.
Mais ce qu'elle en sait, c'est par sa mère.
Et juste, ah oui.
Et elle l'imagine, mais sans vraiment l'idolâtrer en fait.
Bon d'accord. Qu'est-ce qui a aimé ce livre? Ah, oui.
Non, moi je l'ai.
Pour
être tout à fait franche, en fait, c'est le seul dans les 5 que j'ai pas lu. Donc, je voudrais parler de la présentation du livre en général, parce que je peux pas en dire plus, je peux pas contredire tous les arguments qui vont sûrement énoncer. Juste, tous les autres, ils avaient une histoire qui était accrocheuse. En fait, moi, je lisais le petit résumé et j'avais directement envie de me plonger dans le livre. Celui-là, j'ai lu, je me suis directement dit, bon, c'est romantique, c'est gnangnan. Je voulais pas le lire, vraiment, c'était. Et j'ai pas réussi d'ailleurs, j'ai lu quelques pages, j'ai plus envie. Donc après, il est peut-être bien, je dis pas le contraire, mais en tout cas, bon. La présentation est très mal faite.
Donc vous en parlez sans l'avoir lu, c'est très bien. qui veut le soutenir, ce livre?
Oui, j'ai trouvé que ce livre, il était vraiment très beau parce que, il se passe. C'est la vie de deux femmes, donc d'une petite fille et de sa mère, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a un personnage qui est omniprésent. C'est le père, et pourtant il n'est pas là. Parce que, en fait, la mère et le père se sont séparés. Et la seule trace qui reste du père, c'est sa fille. Et donc, on a l'impression que la mère, elle vit dans le souvenir de son père. La fille, elle voudrait s'émanciper de ça un peu. Et l'écriture, beaucoup de gens dans le vote l'ont trouvé un peu trop simple ou plate. Mais je trouve que vraiment, ça donne une sérénité quand on le lit. Mmh. On n'est pas triste, on est juste calme, tranquille, et c'est vraiment très agréable à lire.
Il y a un côté zen, un peu
Un peu, et puis aussi, c'est des événements du quotidien. Et donc, on le lit, il se passe pas grand-chose, c'est vrai, mais c'est vraiment. On a vraiment l'impression de rentrer dans l'ambiance du livre, petit à petit, doucement, et c'est vraiment très agréable.
Bien. Oui.
Par rapport à ce sentiment zen, moi, j'ai trouvé ça très endormant. Et la seule chose que j'ai aimée dans le livre, c'est que Soko qui grandit, c'est un petit peu le temps qui passe. Et ça donne une échelle intéressante. Et aussi que ce que j'en ai retiré, c'est le sentiment de perte pour une femme qui s'en est pas remise. Mais sinon, j'ai trouvé ça mièvre, long, creux. C'est vraiment l'ébauche d'un roman qui aurait été bien plus construit, quoi.
Robin.
Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est que c'est pour moi un roman à deux lectures. C'est-à-dire qu'on peut suivre l'histoire de cette femme et de sa fille, recherchant un père, mais il y a aussi beaucoup de sous-entendus, beaucoup de choses. C'est un peu un roman à lieu clos, même si elle voit du monde, même si elle se déplace, elle côtoie pas vraiment les autres. Au final, la mère finit par se détacher de la réalité. Et on voit que la fille, elle essaie par des rituels, par exemple, il y a le rituel du coucher où elle met une poupée d'un côté, enfin quelque chose de très réglé, que pour éviter de se déconnecter de cette réalité, il y a plein de rituels, plein de choses. Je trouve que c'est un roman très complet et que ça laisse le choix au lecteur comment le lire.
Mm-hmm. Oui.
Donc ce livre, moi je ne l'ai pas du tout aimé. Si je devais le décrire en un mot, ce serait plat. J'ai pas du tout aimé le style d'écriture. C'est peut-être le fait que ce soit pas un style français, c'est peut-être le fait que ce soit japonais. Je sais pas s'ils écrivent si c'est comme ça le style d'écriture au Japon. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça long. Et j'ai trouvé, par exemple, des passages, je trouvais ça ridicule. Par exemple, à un moment, la mère qui dit à sa fille, oh mon Dieu, tu as une belle colonne vertébrale comme ton père. Je sais pas, c'est des passages comme ça, je trouve ça ridicule et je me suis ennuyé.
Oui.
Alors, ça peut paraître ridicule, ça fait partie des rituels qu'il y a dans tout le livre, qui vont se répéter tout le temps. Comme par exemple, je crois que c'est sur ses sourcils aussi où elle dit des choses, je sais plus. Mais, comme à chaque fois qu'elle va travailler tout le temps dans un restaurant, elle va tout le temps être serveuse, sa mère fume tout le temps autant, ça va être répété de nombreuses fois. À chaque fois, la fille se fait un ami avec une situation déchirante à la fin, enfin pas déchirante, mais bon, la séparation va être difficile. Sauf à la fin où elle va rencontrer un ami qui va comprendre un peu sa situation et qui va lui dire « Je te reverrai jamais, mais c'est pas grave. » Donc voilà. Et ça montre que... Non, voilà, c'était... Ça montre... que vraiment elles sont pas dans le même monde que les autres, elles sont enfermées dans un circuit qui n'a aucun rapport avec la vie que peut avoir quelqu'un d'autre, et je trouve ça intéressant.
Oui, Angèle.
Moi, pour parler de ce livre, je ne l'ai pas trouvé difficile à lire ni désagréable en lui-même, pas trop endormant, mais j'ai trouvé, oui, certaines situations absurdes, comme la totale irresponsabilité de la mère alors qu'elle aime sa fille et que c'est la dernière trace de celui qu'elle a aimé, mais Elle ne fait pas attention à ce que ressent sa fille, elle ne va pas, même si elle veut son bien, elle va pas lui demander ce qu'elle veut pour qu'elle soit heureuse ou des choses comme ça. Elle lui dit de faire comme elle, de mettre tout dans une boîte, mais sa fille, elle veut pas. Et je trouve cette situation totalement contradictoire avec cet amour qu'elle éprouve pour sa fille. Et c'est peut-être cet élément qui a fait que je n'ai pas totalement accroché à ce livre.
Oui.
Je voulais aussi dire que je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est deux conceptions totalement différentes de la vie. La fille et la mère, en fait, elles veulent être libres, indépendantes, sauf qu'elles passent par deux moyens indépendants, différents. La mère, pour être libre, il faut qu'elle se déplace, qu'elle n'ait pas d'attache, qu'elle soit libre des, que les souvenirs ne la gênent pas, qu'elle veut un mode de vie nomade un peu. Alors que la fille, pour être libre et pour être heureuse, elle a besoin d'avoir des racines, de connaître ses parents, d'avoir des amis, de se développer. Elle a besoin de temps aussi. Et je trouve que c'est un peu triste ce livre parce qu'on se rend compte que la mère et la fille s'aiment, mais elles peuvent pas vivre ensemble pour être heureuses à partir du moment où la fille devient adulte, parce qu'elles ont deux conceptions de la vie différentes.
Moi, j'ai pas beaucoup aimé ce livre parce que je trouve qu'il est trop monotone. En fait, la vie de la mère et de la fille, mais je trouve que c'est trop répétitif. Et Jeanne a dit que justement on s'immisçait petit à petit dans l'histoire, mais on met trop de temps à rentrer dans l'histoire. Et il commence à se passer des choses vraiment à la fin et on s'y intéresse, mais c'est déjà fini.
Louise.
Moi, je pense qu'il faut plutôt lire ce livre comme un journal intime. Plutôt que comme un roman, parce que c'est plus l'histoire d'une famille, enfin si on peut dire ça, parce que ce n'est qu'un couple de personnes. Mais on voit souvent que la fille et la mère ont une liberté, mais elle est limitée. Parce que la mère ne peut pas vivre sans sa fille, elle est totalement perdue sans sa fille, mais la fille ne peut pas vivre étouffée par sa mère. C'est impossible pour elle. Donc ça... C'est ça qui fait tout le roman, et justement c'est le fait que ça soit, comme disent certains, monotone et plat. C'est pas un roman qui est fait pour avoir des explosions ni des bagarres, quoi. C'est un roman qui est fait pour juste montrer la vie, tout simplement, une situation qui pourrait exister dans notre vie à nous.
Vous écoutez CFM et vous avez bien raison. C'est une émission qui vous est proposée par les élèves du lycée Michelet, du côté de chez Jules. Ils débattent aujourd'hui des 5 livres qui étaient en lice pour le prix du lycée Michelet. Le 3e livre dont on va débattre, ça s'appelle « Les faibles et les forts ». C'est un livre de Judith Pérignon qui est chez Stock et c'est Margot qui nous le présente.
Oui, alors « Les faibles et les forts ». Déjà, il faut savoir que c'est un livre qui est en 2 parties. C'est-à-dire que vous allez voir, si vous lisez le livre, c'est vraiment la première chose qui est dite. C'est qu'il va se passer quelque chose dans une famille. Donc, ils ont l'air de vivre tous ensemble. C'est un mode de vie. Et en fait, il y a l'aîné des fils, donc qui s'appelle Marcus, qui va se faire arrêter. Donc, c'est une famille de Noirs américains. Donc, il faut savoir qu'ils ont été persécutés longtemps aux États-Unis. Et c'est encore présent, encore de nos jours. Et donc, en fait, on va voir cette arrestation du point de vue de plusieurs personnages. Donc, de la grand-mère qui va voir ça... qui va plus rejeter la faute sur son petit-fils, donc qui vient de se faire arrêter en disant qu'il ne montre pas le bon exemple, en gros qu'il devrait faire profil bas pour qu'ils aient rien à leur reprocher, la mère qui en veut à la police parce que elle croit son fils innocent, le fils qui en veut un peu à tout le monde au final. On a aussi le point de vue de la sœur qui elle reste dans ses pensées, elle s'en fiche pas mal pour être franc. Puis on a aussi le grand frère qui, il est un peu dur à dépeindre, lui. Il pense à ses affaires, il pense à son frère, à sa famille. Il est... voilà. Et puis il y a aussi le petit frère. Lui, on dirait qu'il n'a pas du tout compris ce qui se passait. Enfin, voilà, donc la première partie, c'est surtout... Enfin, moi, c'est ce que j'ai pensé. On m'a souvent contredit. J'ai l'impression que c'est un choc de génération du point de vue de ce qui s'est passé pour les Noirs américains aux États-Unis justement. Et c'est un choc de génération dans le sens où on a le point de vue de toutes les générations ici et ils le voient pas de la même façon car la grand-mère elle a vraiment connu le racisme, la mère moyennement, en tout cas elle a pas que ça à penser et puis le fils ils l'ont pas connu comme c'était avant.
Donc
et,
on est dans la période actuelle.
C'est la période contemporaine. Et la deuxième partie ça se passe dans les années 50 donc c'est justement alors, là on va voir
retour en arrière.
C'est ça, une péripétie de la grand-mère qui va raconter une scène qui l'a profondément choquée, et donc c'est comme ça que son frère est devenu sourd, en fait. Et donc ça, elle va raconter, entre guillemets, ce petit passage de sa vie, et on va voir le racisme qui était à cette époque. Par exemple, les Noirs n'avaient pas le droit d'aller dans la piscine des Blancs. Voilà, donc nous, ça nous paraît un peu insensé, mais c'est ce qui se passait là-bas. Et puis il y a une troisième mini-partie qui est dans la deuxième, en réalité. C'est une émission de radio à cause d'un incident que je ne vais pas dire.
Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce livre ?
L'aspect historique, donc la lutte des droits civiques pour l'égalité des Noirs et des Blancs, on le voit, comme a dit Margot, avec l'ouverture des piscines. Ensuite, on voit quand la police vient pour inculper Marcus sous un mobile qu'ils n'ont pas encore trouvé, que le temps de la haine n'a pas vraiment évolué depuis l'enfance de la grand-mère. Et ensuite, ça, je ne sais pas si je peux le dire, mais ça raconte aussi la transmission d'une peur qui est toujours là depuis l'esclavage. Mmh.
Donc c'est la transmission d'une peur au sein d'une famille de couleur.
D'une famille de couleur. Okay. J'ai trouvé la structure intéressante, l'écriture bouleversante, et c'est vraiment des émotions justes, et c'est très intéressant. Ouais.
Oui.
Donc ce livre, c'est sans doute celui que j'ai préféré. Déjà, rien que la façon dont est présenté le livre en 3 parties, ça permet d'avoir une diversité de points de vue. Et je trouve que ce livre permet vraiment de nous faire réfléchir sur des faits d'actualité, sur la ségrégation des Noirs et de voir par exemple une personne est différente, donc du coup on doit se comporter différemment à son égard, le voir d'un autre œil, pas forcément très agréable. Et notamment ça m'a fait penser à tout ce qui se passe notamment aux États-Unis, comme par exemple là récemment à Baltimore avec les émeutes après l'assassinat d'un Afro-Américain par un policier, et qui s'est déjà passé encore plein de fois avant aux États-Unis, comme par exemple à Ferguson et plein de fois avant. Et vraiment ça m'a marqué sur le fait que cela nous fait réfléchir sur notre société, sur est-ce que notre société n'est pas à revoir, et sur une réalité qui est vraiment dure.
Donc c'est les résonances essentiellement que ce roman a dans, avec le monde contemporain qui vous ont qui vous a séduit.
Oui, et oui. Aussi j'ai adoré la façon d'écrire de l'auteur, j'ai bien aimé sa plume.
Louise ?
Moi au contraire, j'ai pas du tout accroché à ce livre, je ne l'ai même pas fini pour être honnête. J'ai lu les 20 premières pages voire 30. Mais c'était tellement compliqué à comprendre parce qu'on change de point de vue sans cesse. C'est en permanence quelqu'un d'autre qui parle et c'est assez pesant, en fait, faudrait dire. Donc du coup, j'ai pas réussi trop à comprendre, alors j'ai abandonné rapidement.
Robin ?
Alors j'ai beaucoup aimé le livre, juste ne serait-ce que pour les personnages, qui sont tous très intéressants, surtout la grammaire, que j'ai trouvé, qui a une manière assez crue et assez violente de dire les choses, que ça en devient drôle à des moments. Et ça dépasse bien certaines réalités, mais ça pourrait faire rire. Et moi, je conseillerais ce livre que pour la grammaire, qui est juste beaucoup trop drôle.
Margot.
Alors, je voudrais revenir tout d'abord sur ce qu'elle a dit. Je pense que le fait de ne pas le finir, déjà, c'est dommage, parce qu'il se passe plein de choses à la fin, que tu n'as sûrement pas vu. Du coup, tu ne dois sûrement pas comprendre des fois ce qu'on dit. Ensuite, sur le fait que ce soit compliqué... Je vois pas pourquoi, en fait, parce que justement, si vous sûrement qui nous écoutez, vous l'avez pas, il y a toujours un petit passage, on change de page à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui pense, entre guillemets, et à chaque fois il y a écrit le nom, donc déjà on peut comprendre. Ensuite, je trouve que c'est justement, comme ils sont très différents, je trouve justement que c'est très facile de les comprendre. Parce que s'ils étaient tous pareils, à la limite, pourquoi pas? Et puis même leur nom est différent, du coup je comprends pas en quoi c'est compliqué de les différencier. C'est facile par leur point de vue, leur nom, c'est pour ça que je comprends pas. Et ensuite, pour revenir sur mon point de vue, je pense que ce livre, de tous ceux qu'on a, c'est sûrement le plus fort. Déjà, par la couverture, déjà c'est quand même très simple, c'est quand même noir, avec les écritures bleues dessus, c'est... Je trouve que le fait que ce soit si simple, c'est vraiment fort. Et puis, on a tout une petite
image. Ça, si vous voulez, c'est tous les livres chez Stock sont publiés comme ça.
Oui, non, mais c'est pas ça. Fort c'est et pas... C'est, je trouve ça bien que ce soit comme oui. ça. Et sinon, oui, c'est plus aussi. Fort. Parce que c'est quand même un livre qui, moi, personnellement, il m'a bouleversée parce que c'est vraiment choquant. C'est une société qu'on n'a pas connue. Non. On voit vraiment des choses. Oui. Des fois, il y a une émission de radio à la fin. Et il y a les gens qui disent, en gros, que les Noirs ne savent pas nager, ils n'ont pas les mêmes capacités physiques, ils ne flottent pas. Enfin, c'est ridicule.
On a entendu les réserves de Louise aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont réservés parmi vous, qui sont réservés sur ce livre?
C'est juste par rapport aux personnages. On peut s'attacher plus à certains personnages qu'à d'autres.
À la grand-mère, vous nous avez dit.
À la grand-mère. Oui. C'est pour ça qu'on a envie de sauter des pages.
Ah bon? Parce
que vous... Il y a certains personnages qui m'ont moins marqué que d'autres. Et c'est pas une grosse critique. Hein, mais
moi, je voulais revenir sur ce que disait Louise. Je comprends tout à fait le fait que ce soit compliqué, mais c'est pas au niveau de la pagination ou comme ça. C'est juste que on lit un chapitre. Déjà, l'écriture, elle est forte, elle est amère. On a l'impression qu'aucun des personnages est heureux. On a l'impression qu'ils sont tous en colère. Donc vraiment, quand on ouvre le livre, ça nous fait un choc un peu. Et je trouve que vraiment, il faut... C'est pas un livre qu'on lira forcément pour le plaisir. Parce que déjà, il faut savoir que dans trois des livres du Prix Michelet, ça repose sur des faits divers. Et celui-là, ça en est un. Donc il faut garder à l'esprit qu'en fait, il va se passer quelque chose, un événement. Et il faut garder à l'esprit que c'est un événement réel. Donc c'est quelque chose de fort. Et c'est quelque chose qui... Et ça impacte sur nous, et pas forcément d'une manière positive aussi, je trouve.
Alexandre ?
Je voudrais revenir encore sur ce qu'a dit Louise. Et je pense que t'as raté quelque chose en ne lisant pas en entier. Parce que je peux comprendre que la première partie, tu as eu du mal avec peut-être le changement de personnages à chaque chapitre. Peut-être ça peut causer un trouble de devoir changer les points de vue en permanence, mais je pense que tu aurais dû continuer parce que il y a vraiment des rebondissements dans ce livre qui en valent la peine.
Le quatrième livre qui était en compétition, c'est Norland de Jérôme Roy, qui est publié par Cyrose Jeunesse, et c'est Robin qui nous le présente.
Alors ce livre nous raconte l'histoire de deux jeunes filles, dont une plus particulièrement. Je trouve qu'il y a deux personnages principaux, en tout cas, qui vont se révolter contre un système ou contre un groupe de personnes qui va être représenté par l'archétype du méchant dans ce livre, qu'on va surnommer l'autre. Je pense pas qu'il en faille bien plus pour décrire ce livre, car pour moi, il se résume à la lutte de deux points de vue, qui sont exprimés avec beaucoup de violence. Déjà, le méchant s'appelle l'autre. Je l'avais déjà dit, mais on aurait pu l'appeler vous savez qui. Dans ce livre, tout est blanc ou tout est noir. Les méchants sont des méchants d'extrême droite, nazis, sectaires. Il y a beaucoup de clichés dans ce livre, beaucoup d'amalgames. Ce que je trouve, dans une époque où il y a beaucoup de théories du complot, tout ça, je trouve que ce livre, il a un manque de subtilité et un manque de tact qui m'a gêné.
Bien. Est-ce qu'il y en a qui partagent l'opinion de Robin?
Est-ce qu'on peut dire le contraire ou comme ça?
Oui.
Déjà, je trouve que c'est assez mal résumé parce qu'il ne raconte pas du tout l'histoire. Donc, alors, il faut dire que c'est une adaptation d'un fait divers. On a changé tous les noms, donc on ne va pas dire quel fait divers il s'agit parce que c'est une des questions du livre. Donc, il s'est passé quelque chose de grave dans la vie d'une jeune fille et elle en a été brisée. Et pour se reconstruire alors qu'elle est à l'hôpital, elle va décider de tenir un journal qui se présente comme une grande lettre qu'elle envoie c'est une lettre qu'elle veut envoyer à sa correspondante française. Donc c'est pour ça qu'il y avait deux personnages principaux, sauf qu'on entend la parole que d'une seule, qui est l'héroïne. Et donc petit à petit, je trouve que dire que ce livre est simple, c'est pas forcément vrai. Parce que c'est... Déjà... Il y a cette jeune fille, elle est brisée mentalement, et donc à mesure qu'elle écrit, elle se reconstruit petit à petit. Et en plus, dans l'histoire qu'elle raconte, on voit l'éveil aussi quelque chose. Je trouve que ça fait partie d'un problème de notre société, c'est le fait que les adolescents ne s'impliquent pas forcément dans la politique et dans les idéaux. Et justement, on voit cette jeune fille qui était totalement hermétique à ça, qui s'ouvre aux idéaux politiques et qui commence à réfléchir sur la politique. Donc c'est un point de vue secondaire du livre peut-être, mais je trouve que c'est important de le souligner par exemple pour montrer que ce livre n'est pas simple et que peut-être qu'il y a une simplicité apparente, mais c'est pas forcément le cas.
Margot.
Alors moi je vais revenir sur ce que tu as dit. Si, le livre, je le trouve en tout cas extrêmement simple. C'est-à-dire que moi je lis un livre pour adolescents, à la limite c'est pareil quoi. Après, je suis d'accord Le sujet, il est très bien, ça aurait pu amener à quelque chose de vraiment très intéressant, notamment avec la psychologie du personnage qui, comme tu l'as dit, est censée en tout cas être détruite. Et tout ce qu'elle dit, c'est « Oh mon Dieu, je suis mal !» Oui, bon, génial, voilà. Et j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Enfin, j'aime beaucoup la psychologie dans les livres. Là, franchement, j'ai trouvé ça plat. La fille, elle a rien à dire alors qu'elle devrait dire tant de choses. Ensuite, sur la façon dont c'est écrit, ça aurait dû être autrement ou alors mieux fait. Parce qu'une lettre à sa correspondante, qu'il faut savoir, elle est venue plusieurs fois dans son pays, donc la Norlande. Et au final, elle est en train de lui raconter des choses qu'elle sait, genre « Oh, t'as vu, il fait froid en Norlande ?» Ben oui, merci, elle le sait. Donc, bon, après, je comprends, c'est pour nous faire comprendre, mais ça sert à rien. Dans ce cas, faut pas mettre que c'est une lettre. Enfin...
Bien, Louise.
Je suis un peu d'accord avec Margot sur ce point-là. Elle nous dit des choses qui sont censées être adressées à son amie. Bien sûr, c'est un message pour nous, mais ça n'a aucun intérêt, à vrai dire. Nous dire « Oui, il fait froid en Norlande », on n'en a quasiment rien à faire.
Oui, d'accord. Robin.
Le livre, même si j'ai pas du tout aimé ce livre, j'ai pas trouvé qu'il était simple. Enfin, il est un peu quand même. Mais il développe des tonnes de métaphores pour un avis qui est le même pendant tout le livre, qui va se répéter tout le temps. Il y a plein de sous-entendus, plein d'entre guillemets. Je suis devenu parano en lisant ce livre. J'ai vu des sous-entendus absolument partout. Des sous-entendus qui n'étaient pas forcément super fins. Et plein d'amalgames, vraiment.
Bien, une dernière intervention, peut-être Noémie.
Comme on a dit, il y a des incohérences au niveau des lettres. Soit c'est volontaire et alors personne n'a rien compris, soit ils maîtrisent pas du tout la double énonciation, mais en tout cas, bon voilà. Et si c'est vrai que c'est progressivement gangréné par le racisme, le point de vue idyllique du départ, du coup, il n'est pas du tout crédible. Et j'ai trouvé ça pas du tout pédagogique. Donc, ça manque vraiment de psychologie. Ça n'a pas de profondeur. C'est pas très.
Bien. Il s'agissait de Norlande de Jérôme Roy chez Siroche Jeunesse. Le dernier livre en compétition, c'est Le Collier Rouge de Jean-Christophe Ruffin, qui est publié chez Gallimard. Et c'est Jeanne qui nous le présente.
Alors, C'est un roman historique, donc qui se passe à la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale, en France, dans un petit village de province. Donc, la guerre vient de se finir, et un soldat, un ancien soldat qui a été décoré, donc qui est un héros de guerre, est emprisonné dans ce petit village. C'est d'ailleurs le seul prisonnier de la prison, et on ne sait pas pourquoi. Il va falloir attendre tout le livre pour le savoir. Et en fait, il y a deux personnages principaux. Il y a donc ce prisonnier et il y a le juge. C'est un juge militaire qui doit venir le juger parce que c'est un crime important et de nature d'une offense à la patrie. Je dis juste ça. Et donc, le livre se commence au moment où le juge rencontre ce prisonnier. Et en fait, c'est une ambiance particulière dans ce village parce que le juge sent très vite que tous les habitants du village sont favorables à ce prisonnier. Et on sait, nous, on ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'ils sont favorables au fait qu'il soit libéré. Et il y a le chien du prisonnier qui, le chien du prisonnier hurle à la mort en permanence parce que son maître est emprisonné. Et donc, ça, c'est le décor de départ. Et petit à petit, le juge va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le prisonnier a commis cet acte. Et en même temps, ce juge, en même temps que lui comprend, nous on va comprendre aussi. Donc ça nous permet de rentrer dans la psychologie d'un soldat de l'époque, mais aussi d'un juge de l'époque. Donc deux côtés, deux personnes très différentes, qui ont des idéaux différents. Un qui est plutôt communiste, l'autre qui est plutôt républicain, on va dire, avec des idéaux de très de la Troisième République et tout ça.
Peut-être, non ?
Bourgeois plutôt.
Oui, bon.
Donc, c'est deux personnes différentes. Et donc, à mesure qu'on comprend ces deux personnages, on comprend pourquoi le premier, donc le prisonnier, aurait commis ce délit. Et à la fin, ce délit nous est révélé. Et
qu'est-ce qui vous a séduit dans le livre ? C'est le fait que vous avez été pris par l'action tout de suite ? C'est l'écriture ?
Alors, je trouve déjà que l'écriture est très simple, donc ça nous laisse l'idée. Déjà, l'écriture ne prend pas parti, si on peut dire, parce que elle nous laisse nous faire une idée de ce livre. Elle est sobre, et moi j'aime les écritures sobres. Et ensuite, je trouve que vraiment c'est très intéressant parce que il en fait pas trop, et il est pas très. Il se dit pas « je vais faire une fresque de la Première Guerre mondiale ». Il décrit juste un incident qui est aussi un fait divers, d'ailleurs. Okay. Et donc, voilà, ça m'a séduit.
Jean.
Moi, je pense que tu as oublié de mentionner un personnage. Oui, mais c'est quelque chose de très important. C'est le chien du...
Oui.
Le chien du prisonnier. Enfin, en fait, c'est pas vraiment son chien. C'est un chien qui l'a suivi tout le long de la guerre. Et je pense que c'est lui le personnage principal. Parce qu'il est présent et tout se passe à cause de lui, en fait.
Mais il aboie, c'est lui, c'est ce chien-là qui aboie, oui, comme vous l'avez dit, jour et nuit, tout le temps. Et le collier rouge, c'est le collier, le titre du livre, le collier rouge, c'est le collier qu'a ce chien.
Oui, mais je peux pas en parler plus parce que sinon.
Très bien.
Mais par contre, il faut mentionner quelque chose, c'est que l'homme, le prisonnier, n'aime pas ce chien, mais pourtant.
Alors ça c'est dans l'histoire. Mais vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre ou qu'est-ce qui vous a déplu?
Il m'a plu, mais c'était pas mon préféré. Non. Parce que l'histoire, elle est intéressante.
Bon, d'accord. Oui, Margot.
Moi, j'ai pas du tout aimé ce livre. Je sais pas trop quoi dire, en fait, parce qu'au final, j'ai trouvé très plat. Je trouve qu'il y a pas grand-chose à dire. Déjà, l'écriture, j'ai trouvé ça simple. C'est pas le pire. En fait, en film, ça aurait été bien, parce qu'il y a pas beaucoup de détails. Il est court, c'est facile à faire. En film, ça aurait été très, très bien. Mais alors, en livre, c'est pas extraordinaire. Déjà, la morale, le fait qu'un homme ne soit pas forcément... parce que la morale, c'est un peu ça, au final. C'est que l'homme n'est pas forcément un chien-chien, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est nuancé. Voilà, on le savait, j'ai pas besoin d'un livre pour savoir ça. Après, ça peut être intéressant, mais je trouvais que c'était mal tourné, en fait.
Bien. Robin.
Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que, contrairement à Norland, il n'impose pas une opinion, il laisse réfléchir. Il y a plein de questions qui gravitent autour de l'histoire, qui est un peu le pivot central. Et la principale question de ce livre, je trouve, c'est que c'est la question, est-ce qu'un soldat doit répondre aux ordres de manière arbitraire, sans avis, sans opinion, et c'est là que le chien intervient pour donner ce côté bestial un peu de la soumission à l'ordre, etc.
Noémie.
Moi, j'ai beaucoup apprécié qu'on sombre jamais dans le pathos. Contrairement, pourtant, il s'y connaît l'auteur parce qu'il a été longtemps président d'Action contre la faim. Et c'est vrai que je l'ai lu après Norland, et Norland, ça m'avait vraiment, enfin, c'était égoïste, franchement, et égocentrique, c'était, enfin voilà. Et là, c'était pas du tout ça. Et pourtant, ça traite d'un sujet assez difficile. Et j'ai trouvé que justement, il nous laisse nous faire notre avis. Et là, je suis entièrement d'accord avec Jeanne. Et finalement, au-delà de l'apparence des choses, j'ai trouvé que ça dénonce aussi et ça rapproche vraiment de la phrase « Quelle connerie la guerre » qu'a dit Prévert, je trouve ça
bien.
Très
alors donc, vous venez d'échanger autour des 5 livres en compétition et maintenant, lequel l'a emporté? Bon, on va te demander à Louise de nous le dire.
Bah, on va pas faire durer le suspense extrêmement longtemps. C'est les faibles et les forts de Judith Pérignon qui a gagné.
Oui. C'est pas le livre. On a compris que c'était pas le livre pour lequel vous avez voté.
Ah non, moi je n'ai pas voté pour celui-là. Je ne l'aime pas apprécié, mais selon les avis de pas mal de personnes, il est très bon. Moi, j'ai mon style de lecture personnel. Je ne vais jamais critiquer ouverte. Enfin, je critique un livre, mais j'encourage toujours les gens à le lire.
Pour quel livre, par exemple?
Moi, j'ai voté pour La Barque de Dieu.
D'accord.
Mais chacun a sa propre idée.
On va faire un petit tour de table pour savoir quel était votre livre préféré. Vous, Margot?
Alors moi, c'était Le Rire du Grand Blessé. J'avais voté pour lui. Mais que Le Faible et l'Effort ait gagné, ça ne me dérange absolument pas. Même, je pense qu'à la limite, il le méritait peut-être un peu plus parce que le message était plus fort.
Alexandre?
Donc depuis le début, j'ai été pour Le Faible et l'Effort. Et donc je suis extrêmement content qu'il ait gagné.
Bon, très bien. Jean?
Moi aussi, j'ai voté pour ce livre et je suis content qu'il ait été élu.
Bien. Robin?
Alors moi, j'ai voté pour Dans la Barque de Dieu. Et je suis quand même content que ce livre ait gagné parce qu'il est très bon aussi.
Bon. Jeanne?
Moi, j'ai voté pour Le Collier Rouge, mais ça ne me dérange pas du tout que ce livre ait gagné. Je ne dirais pas que je suis contente parce que je ne l'ai pas trop apprécié, mais je comprends que certaines personnes l'apprécient parce que c'est un livre fort quand même.
Oui. Angèle?
Moi, j'avais voté pour Le Rire du Grand Blessé. Mais en fait, j'hésitais un peu avec Les Faibles et les Forts et je suis vraiment contente que ce soit lui qui ait été élu.
Moi, j'ai aussi voté pour le Rire du Grand Blessé, pour le questionnement personnel qu'il induit, mais c'était mon deuxième livre préféré si on doit faire une hiérarchie et c'est vraiment bien qu'il soit élu.
Bon, donc au sein des 8, vous êtes 8 autour de la table, il y a une unanimité, je dirais presque, sauf Louise, qui, elle, est un livre dans lequel elle n'est pas du tout rentrée. Je vous rappelle que donc le prix du lycée Michelet 2015 a été attribué aux Faibles et aux Forts, qui est un livre écrit par Judith Pérignon aux éditions Stock. Lisez-le, bonne lecture, bel été. Merci à vous tous d'avoir débattu autour de ces 5 livres qui étaient en lice pour le prix du lycée Michelet. Je vous rappelle que c'était une émission qui s'appelle Du côté de chez Jules et qui vous est proposée par les élèves de Michelet, cette fois-ci des élèves de seconde et de première. Au revoir, bel été.
Au revoir Jacques Griffaud, au revoir les jeunes, merci pour cette nouvelle édition du côté de chez Jules que vous pouvez retrouver en podcast sur cfmradio.fr.
Ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit.